I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Moi, pendant mes études, j'étais en mode, l'architecture moderne, c'est nul. T'sais, aucune nuance, c'est vraiment mode.
Ouais, bah, je pense qu'on est tous passés par là à un moment.
Et j'étais en mode, je comprends pas, avant c'était beau. Mais... moi, je suis fasciné par les portes. Quand tu regardes les bâtiments du quotidien, genre du 19e siècle, même début 20e siècle, ben, certes, c'est pas les plus ornementés ou les plus pertinents, mais il y a quand même une petite finesse. Là où aujourd'hui, tu regardes les bâtiments récents, contemporains, sont assez genre faibles quoi en termes de dessin
de façade.
Ouais. Le fait qu'on soit là à discuter des architectures,
on se serait jamais rencontré comme ça. Hein. En vrai, ouais, on commence juste comme la question que tu m'as posée au début. En gros, genre tu te présentes un peu tes études, ton parcours, tout ça.
Yes. Bah moi, je suis suisse du coup.
Ouais.
J'ai grandi à Genève. Je suis né à Genève. Et en France, il y a pas de CFC, je crois.
Ouais.
C'est des centres de formation professionnelle.
OK.
En gros, tu peux faire dans plein de métiers différents. Moi, je l'ai fait en premier CFC, j'ai fait dessinateur en architecture intérieure.
OK, trop bien.
Donc là 100% à l'école, c'était cool, c'est là où c'est un peu le premier pas dans l'archi.
Ouais.
Donc ça remonte un peu, ça fait quoi, je commence en 2011, je crois. Et après j'ai enchaîné avec un deuxième CFC. Voici CFC de dessinateur en construction. Donc là, c'est toute la partie technique, détail et tout. Sauf là, je l'ai fait en alternance. Donc, j'étais à moitié à l'école, moitié dans un bureau. Du coup, ça m'a permis de voir un peu aussi comment ça marchait aussi en entreprise.
Mm-hmm.
Et après, j'ai enchaîné avec un bachelor,
ouais,
mais en école privée. Parce que vu que j'avais fait le CFC en alternance, je voulais pas retourner 100% à l'école. J'avais déjà pris mon indépendance, quoi, j'avais déjà pris un appartement et tout. Et de devoir tout plaquer pour faire de l'école, c'était trop compliqué. Du coup, il y a un an, j'ai fini ce bachelor. Donc maintenant, je suis officiellement architecte. Je sais qu'après, en France, c'est aussi différent. Nous, on a des règles.
Nous, en fait, on doit faire 5 ans d'études en école publique. On a un diplôme d'état d'architecte après. Et après, on doit rajouter un an de HMO, habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre.
Okay.
Et après, c'est ce qui nous permet de pouvoir ouvrir notre agence.
Ok, d'accord. Ouais.
Là, par exemple, je suis juste diplômé d'état. Et je peux travailler en tant qu'architecte, mais je peux pas signer des plans,
ce genre de choses. Chez nous, si tu finis ton bachelor, t'as pas forcément le REG. REG A, REG B, c'est par rapport à l'international ou au niveau cantonal.
Ouais.
Tu dois passer après des REG. Il y a des écoles, je crois, où tu le passes de suite. Mais en tout cas, moi, la mienne, c'était pas ça. Faut que je fasse après un dossier. Comme quoi, je sais faire toutes les phases de construction du projet à la direction de travaux, ce genre de choses.
Ok. Donc, voilà. Avec des stages ou
Non, bah pas forcément. Genre si tu travailles en bureau, genre dans le sens où c'est ton expérience qui fait.
Ah ok, donc c'est full professionnalisant dès le début.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus poussé. En tout cas, vers le côté professionnel. En tout cas, moi, par rapport à mon expérience, je sais qu'il y en a qui sont passés directement après les écoles. Nous, c'est le collège,
mm-hmm.
directement en école supérieure d'architecture. Donc après, ils ont fait 3 ans avec 5 ans pour faire le master. Mais moi, j'ai passé par la case apprentissage, donc c'est. Directement, t'es lié avec le.
Non, ça c'est parfait. En vrai, j'aurais tendance à dire que ça c'est parfait hein, pour le coup.
Bah, l'apprentissage, moi j'ai bien aimé vu que j'ai fait les deux 100% à l'école et en alternance. Le truc c'est que l'école c'est cool, t'as le côté tu t'es avec les gens, tu partages beaucoup plus. Alors qu'en apprentissage, t'es directement dans le monde du travail, donc c'est cool, mais c'est moins en tant qu'étudiant c'est moins fun. Quoi.
Ouais. T'as pas tes petites années où t'expérimentes un peu, c'est tu vois tes potes et tout ça.
T'as des gens que tu retrouves en classe, mais eux aussi sont dans un mood de travail. Du coup, c'est un peu différent. Après, c'est beaucoup plus formateur, j'ai l'impression, parce que comme ça, quand tu sors, tu sais déjà concrètement ce que t'as besoin. Alors que quand tu sors des études, quand t'es que à l'école, t'es un peu dans l'idéaliste. T'es un peu là, l'architecture, c'est tout beau. les projets, c'est super. T'as pas de limite de budget parce que t'es à l'école. Là, tu te rends compte, limite de budget, client, genre donc. Du coup, au moins, directement, t'es confronté à ça, donc il n'y a pas de désillusion, au moins de désillusion, quoi.
Bah, j'avoue que ça, c'est un truc, pendant toutes mes études, ça m'a, enfin, j'étais super concerné par ça, parce que je me disais, OK, c'est bien beau, on dessine des bâtiments, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de machin. Mais ouais, en tout cas, je sais que la plupart de mes potes, on avait tous un peu cette impression de se dire, OK, quand on va rentrer dans la vraie vie, à quel point ça va être nul? À quel point on va être bloqué par un promoteur? À quel point on va être bloqué par ça? Et bah, c'est un peu ce que je suis en train de découvrir en ce moment, je t'avoue.
Alors, ouais.
Mais c'est beaucoup moins terrible que ce que je pensais, honnêtement. Enfin, il y a effectivement quand tu vas dans les constructions de logements sociaux, des trucs comme ça, là, c'est très strict au niveau des budgets. Mais quand tu es sur des projets un peu plus, on va dire des projets de musée ou des trucs comme ça, là, tu t'éclates un peu plus au niveau architecture.
Je pense que ça dépend vraiment de... Si t'es pas indépendant, ça dépend vraiment de ton bureau.
Ouais.
Ce qui fait comme projet. Par exemple, moi, j'ai fait plusieurs types de bureaux pendant mon apprentissage. J'ai fait pendant mon apprentissage, puis après, j'ai fait pendant mon bachelor, j'ai changé de bureau. Et ça dépend. À chaque fois, il y avait les bureaux n'avaient pas à chaque fois les mêmes types de clients. Par exemple, mon premier bureau, on travaillait beaucoup avec des promoteurs. Donc, c'était les immeubles un peu nuls que tu vois dans les bords des villes, tu sais, les bars un peu.
Ouais.
Après, je travaillais dans un bureau d'architecte intérieur. Donc, c'était plus, voilà, le côté, on rénovait des magasins, ouais, des restaurants, et aussi des magasins. Et on faisait aussi, il y avait des graphiques et des designers dans la boîte, donc on refaisait aussi l'identité visuelle du client. Et là, je suis dans un petit bureau aussi où là, on travaille sur divers projets comme de la villa ou de la rénovation.
Ok, magnifique.
Donc ça dépend vraiment, moi j'ai vu, ça dépend vraiment de la hauteur là où tu te trouves.
En vrai, vachement intéressant. Et tu vois ton passage quand tu étais plus sur du design intérieur, restaurant, des trucs comme ça. Tu trouves que ça t'a apporté quelque chose en plus ? Est-ce que tu trouves qu'il y a une approche au détail qui est un peu plus intéressante que...
Oui, mais moi, en l'occurrence, dans ce bureau-là, j'étais celui qui s'occupait des plans.
Ouais.
Donc après, la partie design, elle est passée directement chez le designer. Donc,
ouais,
chacun avait bien sa fonction. Donc c'était un peu frustrant de ne pas avoir la partie... création, mais bon, ça fait aussi partie du jeu. Moi, je suis resté 8 mois, donc c'est pas non plus... voilà, faut qu'on se prend plus de temps aussi pour peut-être accorder les projets un peu plus intéressants.
Ouais.
Mais en tout cas, l'avantage de ce bureau-là, c'est que l'avantage avec l'architecture d'intérieur, c'est que les projets vont plus vite. Donc du coup, t'as plus le temps de voir les choses se réaliser. Alors souvent, les projets, des fois, ça prend du temps, des 4-5 ans avant que le projet, entre la phase de dessin, puis le rendez-vous de chantier, quoi,
la phase pro quand elle commence.
Ouais, quand le chantier est fini. Moi, j'ai un blanc.
Je t'avoue que je sais pas non plus.
J'ai un blanc, c'est pas grave.
Non, t'inquiète.
Et du coup, là au moins c'est intéressant, c'est que tu vois les projets avancer très vite.
Ouais.
Et du coup, ça c'est plutôt cool. Moi, c'est pour ça que je fais du YouTube aussi, quoi, du Instagram. C'est que du coup, t'as le côté où ça va vite. Directement, tu libères ton message et j'aime vraiment ça aussi, je pense.
Ouais, je pense que justement c'est ce qui m'a intéressé quand je suis tombé sur toi par hasard sur Insta. J'avais vu un de tes reels et ça parlait justement tu faisais des parallèles entre l'architecture classique et une architecture un peu plus contemporaine. Mais ce que je trouvais différent par rapport aux autres comptes, parce que je pense on a dû tomber tous les deux, tu sais, dans cette sphère je sais pas si t'as vu les mêmes un peu Reject Modernity, Embrace Tradition ou des trucs comme ça.
J'ai pas de nom là comme ça.
Mais du coup, c'était un peu une espèce de mode où ils faisaient des montages en montrant qu'avant, c'était forcément mieux qu'aujourd'hui,
Oui. Ça, c'est problématique.
Ouais, justement. Et je trouvais que t'étais l'un des rares qui... t'étais pas là juste en mode « Ouais, avant, c'était mieux et aujourd'hui, c'est de la merde ». Enfin, je trouvais que dans les exemples que tu prenais, il y avait vraiment des choses qui étaient super intéressantes.
Bah, je pense que j'aurais fait mon compte Instagram il y a 3 ans.
Ouais.
J'aurais été comme ça. Très, très. Pendant mes études, j'étais en mode, l'architecture moderne, c'est nul, c'est aucune nuance, c'est vraiment en mode.
Ouais, je pense qu'on est tous passés par là à un moment.
Et j'étais en mode, je comprends pas, avant c'était beau. Mais après, tu comprends que c'est économique, culturel, par rapport aux guerres, par rapport aux avancées du béton, quoi, c'est par rapport à plein de choses.
Énormément de paramètres.
Et c'est pas juste, d'un coup, l'humain, il s'est dit, bon, maintenant, j'en ai marre de construire du très beau, on va construire du très moyen. Parce que dans l'architecture moderne, il y a des trucs très bien.
Ouais.
Mais c'est vrai que ce qui ressort souvent, c'est fade, quoi.
Ouais, parce que c'est une logique que... Enfin, on était plus dans une logique de « il faut construire vite », parce qu'on était dans un paysage d'après-guerre, il fallait reconstruire les pays, les populations migraient de fou vers les villes. Et forcément, le plus simple, c'était de faire du béton préfabriqué. On s'en foutait de la beauté de la façade. Par contre, ce que ça a apporté, et ce que je trouve que les gens, ils n'en parlent pas assez, c'est le confort. Le confort a été rendu beaucoup plus accessible.
Ça, je suis d'accord. Tout ce qui est l'agencement intérieur, le confort à l'intérieur, on a fait d'énormes progrès, mais on a appauvri la façade de manière drastique. Et justement, l'architecture moderne, je trouve que c'est assez fascinant parce qu'il y a des exemples magnifiques, des bâtiments. Genre là, j'ai été hier au musée de la Bourse. Là.
Ouais.
Le projet Tada Ando.
Ah oui. Oui, c'est ça, la bourse.
Ouais, la
bourse du commerce, et, voilà, exactement.
Et j'ai trouvé ça incroyable. J'avais vu des exemples, j'ai déjà vu des photos sur Internet et je trouvais ça cool. Mais j'étais en mode, j'étais sceptique un peu.
Ouais.
Quand je suis rentré dedans, j'étais en mode,
c'est
quelque chose.
Bah, Tadoando, c'est un peu l'architecte qui m'a... C'est un peu le, genre, mon premier contact avec l'architecture.
Ok.
Genre, c'est... Je crois que j'ai même, le bouc... j'ai même son bouquin quelques pages ici qui m'avait signé. Mais bon, je crois qu'il est derrière le canapé, donc je ne peux pas le sortir. Mais c'est... en vrai, je trouve juste qu'il a une approche tellement spéciale du béton. Mm-hmm. Enfin, c'est clairement pas un truc moderne. Enfin, quand tu le vois, il y a une espèce de poésie que tout le monde comprend quand tu rentres mm-hmm. dans ses projets.
Ouais, c'est clair. Et ça, je trouve, ça m'a bluffé. Mais là où l'architecture moderne de soi, c'est quand tu regardes les bâtiments stars.
Ouais.
Quand tu regardes les bâtiments du quotidien.
Ouais.
Et en fait, c'est ça où quand tu regardes les bâtiments du quotidien, genre du 19e siècle, même début 20e siècle, ben, certes, c'est pas les plus ornementés ou les plus pertinents, mais il y a quand même une petite finesse, quelque chose qui les rattache, ou en fait, qui les humanise. Là où aujourd'hui, tu regardes les bâtiments récents, contemporains, sont assez, à part tant certains exemples, sinon ils sont assez genre faibles quoi en termes de
dessin de façade. Ouais.
C'est ça.
Bah écoute, en vrai j'ai un truc qui peut, enfin j'ai une expérience qui peut vraiment illustrer ça. Dans l'agence où j'étais en début d'année, on avait un projet de logement social. Je vais pas vraiment donner des infos plus précises que ça, mais une des spécificités de la maîtrise d'œuvre, c'était OK. Faites ce que vous voulez, mais il faut que vous repreniez le dessin de la toiture bourguignonne.
Okay.
Et donc, en fait, on a vraiment commencé à essayer de reprendre cette espèce de dessin de toiture vraiment en pente. On a essayé de travailler les façades. Moi, je sais que c'est la première fois que j'ai essayé de jouer avec le nombre d'or dans les façades.
Okay, ouais.
En tout cas, retrouver certaines proportions et tout, mais je ne comprenais pas encore l'importance de la texture, par exemple. Mais au fur et à mesure, on a réussi à trouver des façades qui nous plaisaient, avec des appartements qui avaient des belles surfaces pour du logement social. Enfin, quelque chose qui esthétiquement était plaisant. Mmh. Et en fait, là, on a eu un gros stop de la... En France, en ce moment, il y a un gros problème au niveau de... Enfin, le secteur immobilier est en crise.
Okay.
Et du coup, ils sont venus, ils nous ont fait un gros stop. Ils ont dit, OK, en fait, vous avez fait exactement ce qu'on voulait, mais on n'a plus les thunes, donc faites-nous une boîte à la place.
Ok, ouais, du coup,
et ouais, hyper frustrant. Donc, en vrai, il y a ce côté-là de t'arrives, t'es là, tu veux vraiment faire une architecture qui est bénéfique pour les gens, mais au final, t'es bloqué par des paramètres qui sont, en tout cas, externes au contrôle de l'architecte. Et en vrai, ça brise un peu le cœur, je trouve.
Ouais, je peux comprendre. Ça doit être frustrant quand tu te dis tu veux mettre un peu d'âme dans un projet. Mais c'est souvent les halls d'entrée, c'est les seuls trucs qui restent souvent quand tout le budget a été coupé. C'est le seul moment où je trouve.
Ouais.
Toujours un peu il y a un petit truc dans le hall.
Il y a un petit miroir, il y a un petit jeu.
Mais bon, c'est un peu. Moi, j'aime bien quand tu analyses l'architecture. Moi, je suis fasciné par les portes.
Ouais.
Genre un gros.
Ah ouais, là, vas-y.
Petite fétiche des portes. Et si tu regardes bien les portes, genre tu regardes les portes du 19e siècle. Mais pas avant, je crois. Avant, tu avais aussi des belles portes, mais vraiment, au 19e siècle, ils ont pété un câble. Ils sont ornementés, il y a des statues, il y a des moulures. À Genève, j'ai pris quasiment la totalité des portes de ma ville. Mm-hmm. Pas la totalité, mais je me suis baladé dans tous les quartiers à la recherche des plus belles portes. Et en fait, tu as une importance à l'entrée dans le bâtiment. Et j'ai remarqué, là, en se baladant à Paris, il y a plein de bâtiments où la façade, elle n'est pas vraiment belle. Mais la porte, il y a quelque chose qui a été mis pour faire qu'elle soit un peu plus jolie. Quoi. Genre, tu sens que c'est l'élément qu'ils ont fait au moins la porte.
Ouais, genre le hall d'entrée doit signifier quelque chose.
C'est ça, si tu rentres chez toi, donc ça doit être beau. Ça. Et les portes souvent modernes, ou en tout cas plus récentes, tu vois qu'il y a plus cet attrait-là. Du coup, moi, j'aime bien me dire, moi, la porte, c'est l'entrée où tu rentres dans ta maison. Donc, il y a un côté noblesse, tu vas rentrer là où tu dors, c'est là où tu vis ta vie, ton intimité. Et j'aime bien justement ce côté d'avoir de belles portes.
Ouais.
Pour l'élévation, quoi, je trouve.
J'avais jamais vraiment réfléchi à ça exactement.
Du coup, tu verras, balade-toi dans Paris, regarde les portes, il y en a des portes. Moi, chaque fois que je passe devant, je me dis, ah, c'est incroyable et tout.
Ouais. Non, mais surtout, tu vois celles qui sont. Enfin, en vrai, avec l'utilisation des balustrades, des fois, tu as des statues qui sont magnifiques.
C'est ça.
Alors, quand tu passes à côté de la Samaritaine, tu as le bâtiment de LVMH qui est juste à droite. Et en vrai, les portes, elles ont encore un signe, même si je crois que le bâtiment est beaucoup plus récent que 19-20e, je pense qu'il est plutôt fin 20e, début 21e. Mm-hmm. Il y a encore cette idée de la porte, même si c'est très contemporain, c'est très placé. Donc, je crois que, en fait, cette idée de l'importance de la porte d'entrée, on le retrouve plus, mais dans la construction de luxe. On le retrouve dans la construction de tous les jours, j'ai envie de dire.
T'as l'attrait au détail, donc t'as le fait de vouloir faire bien partout. Et c'est là où justement, c'est intéressant avec les portes, c'est que justement, je fais le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure, avec les petites maisons d'avant et les petites maisons d'aujourd'hui. Tu regardes les portes, même les portes d'avant qui sont peu ornementées, elles sont ou un peu grandes, ou il y a toujours un petit élément, quelque chose qui essaie de la... Je généralise une démarche aussi, mais ce que je veux dire, c'est que tu as toujours un petit attrait. Là, aujourd'hui, tu as des belles portes qui sont, ou des beaux entrées, belles entrées.
Ouais.
Mais c'est très rare, où il faut vraiment chercher le projet qui a voulu faire un truc un peu sympa et tout. Sinon, c'est assez... Des fois, elles sont en retrait. Par exemple, la façade, elle est lisse. C'est tous ces bâtiments où les balcons sont à l'intérieur de la façade. Bah, souvent, l'entrée, elle est à l'intérieur. Donc, quand tu regardes le bâtiment, c'est sombre, c'est lugubre. Toi, ça fait après le
ouais, et...
Il suffit que le quartier, d'un coup, il se dégrade. Ça va sentir la pisse, quoi. Genre, tu vois, genre, c'est tout des trucs où tu te dis, bah, ça peut très vite se détériorer.
Ouais, exactement. Mais ça reste un élément qui donne... Enfin, en vrai, oui. Je t'avoue que là, ça me donne plein d'idées. Et en vrai, tu sais, en ce moment, j'essaie de voir comment je pourrais interpréter l'architecture marocaine à quelque chose de plus contemporain. Là où j'ai travaillé au Maroc, on faisait des villas et ce genre de choses, mais elles restaient quand même, je trouvais, super européennes. Alors qu'on est dans un pays qui a ses traditions, qui a une architecture super marquée, genre l'architecture mauresque, juste pour mettre un exemple. Et en vrai, je trouve qu'en Europe, il y a beaucoup de projets qui ont très bien réussi à jouer le jeu de réinterpréter leur héritage et d'en faire quelque chose de contemporain. Et justement, quand tu parles de la porte, c'est vrai que la porte dans l'architecture traditionnelle marocaine, il y a vraiment ce côté de c'est l'un des seuls éléments qui est orné. Par exemple, si tu vas dans les médinas au Maroc, tu vas te rendre compte que les façades, effectivement, elles sont très pauvres, mais en même temps, elles sont...
C'est moi ?
Non, ça, c'est moi. Attends, j'ai coupé le téléphone. Ok, je te disais, les façades, elles sont très pauvres, mais en même temps, on a une logique d'avoir des rues qui sont super étroites pour éviter que le soleil tape extrêmement fort et conserver une espèce de fraîcheur. Mais la seule manière de distinguer une personne fortunée d'une personne qui est plus modeste, ben, justement, c'était l'ornementation de la porte.
Ok, il y a quelque chose avec les portes.
Donc, il y a vraiment quelque chose avec les portes. C'est vraiment un sujet hyper intéressant quand tu penses.
Mais quand tu dis comme ça aux gens, tu dis « Ouais, les portes, les gars, faut regarder, c'est intéressant. » Tu passes pour un illuminé. Moi, je dis à mes portes, les gars, je fais des photos de portes le samedi. On va dire « Ah ouais, t'as rien à faire ton samedi. » Ouais, c'est super, gars.
Non, mais justement, ça, c'est pour ça que j'adore les podcasts. C'est que c'est l'environnement où on peut parler de ce genre de trucs qui nous intéressent vachement. Et en vrai, tu peux carrément... Moi, je verrais bien tes reels, tu sais, où tu fais passer plein de bâtiments d'un coup. Tu peux faire ça avec les portes.
Je l'ai fait, mais il date un peu. Faut que je réactualise, mais j'ai des projets en cours avec les portes. Mais pour l'instant, je ne veux pas en dire trop.
Parce
ça va pas se faire et je vais être déçu. Donc,
Non, on ne sait jamais. Mais en vrai, incroyable. Les portes, je t'avoue, ça restait dans un coin de ma tête, mais je ne me suis jamais vraiment intéressé. Je crois que je vais y aller un peu plus.
Tu verras, en plus à Paris, vraiment, il y en a des sacrées belles. Là, je suis passé sur les deux îles, là.
Ouais.
Et putain, il y en avait des... En tant que fan de portes, j'ai kiffé.
Je pense qu'au niveau de Paris, si tu es fan de portes, tu as de quoi te satisfaire. Ouais. Ne serait-ce que le Louvre, en vrai.
Ouais. D'ailleurs, je suis passé en plus hier dans la cour. J'adore, mais là, tu sens, c'est le trop plein d'ornementation.
Ah oui, oui.
Il y a un centimètre. Non, il faut mettre un truc. Il faut mettre un petit élément, un petit N pour rappeler Napoléon.
Ah oui, oui. Tu as remarqué que des fois, les bâtiments, quand ils sont, tu vois, quand tu arrives à un côté, ça ne fait pas vraiment sens. Enfin, tu vois qu'il y a un étage qui est plus bas qu'un autre, qui est plus haut qu'un autre. Je ne sais pas si tu as remarqué le fait que, tu vois, le Louvre, il n'a pas été construit direct dans sa totalité.
Non, ouais, c'était ajouté élément par rapport au roi, je crois, un peu dans l'histoire.
Ouais, quand ça changeait au niveau des royautés. Et ce qui fait qu'en fait, quand tu regardes en détail les côtés ou les coins du Louvre, tu arrives à voir vraiment exactement dans quelle ère ça a été construit.
Okay. Ah, je n'ai pas assez regardé le Louvre.
En vrai, c'est un détail que j'aime bien. J'ai appris ça, c'est en cours d'histoire de l'art. Et en vrai, on devait analyser le Louvre, faire des schémas... Quelle époque ça a été construit et montrer les différences d'ornementation. Et je trouve que ça, c'est un des rares trucs. Je pourrais parler de l'éducation en architecture et à quel point je trouve qu'elle pourrait s'améliorer. Mais c'est l'un des rares trucs qui est resté dans ma tête.
Mais je pense, par rapport à... Je vous rebondis sur ça. Je pense, les cours... Moi, j'ai eu des cours d'histoire d'architecture, mais c'était assez faible, quoi. Genre, je veux pas... Ça remonte, donc je veux pas dénigrer le courant pour autant.
Ouais.
Mais je trouve que... C'est pour ça que je fais des reels sur l'histoire de l'architecture. C'est parce que je trouve l'attrait, quand tu t'intéresses, ça, du coup, ça t'ouvre ton champ des possibles. Et plus tu sais de choses, plus ça, du coup, tu dis, ah, mais l'architecture, t'as l'architecture mauresque, t'as l'architecture japonaise. Alors que moi, à l'école, on a mis le focus sur un peu les ordres. Après, on est vite passé sur la Renaissance. Ouais. Et après, on a attaqué moderniste, Corbusier.
Oui.
Et là, on a fait quasiment 80% du programme était sur ça.
Ouais, et après, tu t'enfermes. Tu as l'impression que tu te dis, mais attends, l'architecture, c'est que ça. On n'a pas parlé de... On n'a pas vu les architectures asiatiques. Mm-hmm. On n'a pas vu les architectures au niveau de l'Afrique. Même les architectures américaines. Enfin, genre Amérique latine, tout ça. Mm-hmm. J'avoue qu'on commençait par la Mésopotamie avec les plans hippodamiens et tous les trucs comme ça. Et c'est vrai que pour le coup, je trouve que l'histoire de l'architecture, on est un peu enfermé là-dedans. Genre même j'ai un bouquin ici, alors je vais le sortir. Ça, c'était un des premiers trucs que j'ai acheté. Donc ma mère m'a acheté quand j'ai commencé mes études. Tout sur l'architecture. Et pour le coup, celui-là, il était beaucoup plus complet que à peu près tout. Parce que en fait, j'ai ouvert direct et effectivement, t'as la Mésopotamie, mm-hmm. t'as les Romains, bien sûr, t'as la Chine sacrée.
C'est par ordre chronologique.
Exactement, c'est par ordre chronologique et honnêtement, ils ont à cœur de passer à peu près partout. Effectivement, t'as du gothique, t'as même l'architecture indo-musulmane. Mm-hmm. Et en vrai, moi, j'aurais préféré apprendre l'histoire de l'architecture comme ça.
Mmh. Et encore... Corbusier, il est partout.
Oui, bon, Corbusier, c'est un peu notre maître à tous, apparemment. On va aller dans des territoires sympas. C'est quoi ton avis sur le Corbusier?
Dans mon porte-monnaie, j'ai un billet de lui, parce qu'en fait, sur nos billets suisses,
ouais.
Là, on a changé de monnaie il y a 5 ans, mmh. Mais sur le billet de 10, il y avait sa tête dessus.
C'est pas vrai?
Ouais, je te montrerai après le billet. Et du coup, j'en ai gardé un que je l'ai dans mon porte-monnaie. Parce que voilà, je respecte le parcours du gars.
Ouais.
Après, je l'ai aimé, je l'ai détesté et aujourd'hui, je suis plus nuancé. Mm-hmm. Mais parce qu'à l'école, on nous avait dit en mode oui, Corbusier, c'est le grand monsieur. Ouais. En plus, nous, il est suisse, il vient de la Chaux-de-Fonds.
Bah, surtout que, on a tous vers une architecture.
Et du coup, le mec est mis sur un piédestal. Mental et tout.
Bah ouais, de fou.
Et du coup, ça fait que moi, j'avais pas remis en question du tout là, pourquoi j'aimais le Corbusier. On m'a dit, aime le Corbusier. Tu sais, quand t'es plus jeune, moi, j'ai fait mes études en 2017. Mm. Tu penses par toi-même, t'as l'impression que tu penses par toi-même. Il y a plein de trucs où t'ingurgites ce qu'on te donne et tu dis, ça, faut aimer. Ah, j'aime bien ça. Tu dis pas pourquoi j'aime ça. Parce qu'on m'a dit que tout le monde aime bien. Donc j'aime bien.
Et le gars est important. Donc ouais, il faut absolument que j'aime son travail, sinon je suis pas un bon architecte.
C'est ça. Et j'avais été là, il a fait une église en France.
Ouais.
Là vers Strasbourg, quoi, pas très loin.
Oui, celle qui est très, qui a des formes super organiques.
Et j'avais été la visiter et tout. Et j'avais bien aimé les petits bâtiments qu'il y avait pour loger le personnel. Mais l'église en soi, t'as des jeux de lumière, des trucs que je trouve intéressants. Mais en soi, j'avais pas ressenti quelque chose de positif. Genre elle me fait sentir tous des trucs, elle m'a plutôt dérangé.
Ouais.
Et après du coup je me suis posé les questions, mais est-ce que j'aime vraiment en fait le Corbusier, c'est ce que juste, je me rappelle après l'église, j'avais acheté un poster avec toutes ces, genre qui répertorie toutes ses plus grandes œuvres, et je l'avais accroché chez moi et tout, puis après je me réfléchis, je me dis putain, mais est-ce que j'aime en fait vraiment ces trucs ou pas, parce que j'ai du mal avec l'architecture moderne, en même temps lui c'est genre un des papas de l'architecture moderne et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas tant que ça son architecture. Et j'aimais pas tant que ça sa vision qu'il avait. Genre, pareil, ce qu'il a fait avec le... Par contre, ça, j'adore le côté marketing, mais ce qu'il a fait avec le plan voisin.
Le plan voisin, ouais. Alors ça...
Ça, je trouve trop fort, parce que c'est entre guillemets ce qu'on fait quand tu fais du YouTube, quand tu fais du Instagram, c'est que tu veux théoriser l'architecture. Lui, c'est ce qu'il a fait.
Ouais.
Il a théorisé l'architecture, il a fait ses 5 points, il a fait parler de lui, et ça a marché, quoi. Après, il est devenu qui il est devenu, et je pense que c'est... du fait de sa popularité, d'être devenu un peu une célébrité, en tout cas dans le milieu de l'architecture, qui lui a apporté après le fait d'avoir décroché des mandats un plus importants, je pense.
Bah, en vrai, et là, ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais je trouve que... Enfin, il a été assez précurseur sur un truc, c'était précurseur sur le pouvoir des idées. Mm-hmm. Parce que je suis en train de lire un livre aujourd'hui qui s'appelle « Make Your Idea Stick ». Et en gros, ça t'explique qu'aujourd'hui, on n'est pas comme on pouvait l'être le siècle dernier dans un business de biens matériels, mais plus ce qu'on vend aujourd'hui, c'est des idées, si Apple aujourd'hui ils sont au top de la tech, c'est parce qu'ils vendent une idée plus que des produits. Tesla, c'est pareil. J'irais même jusqu'à dire que Birkingels, genre Big, c'est un peu la même chose. Lui, ses projets, c'est avant tout une énorme idée. Et je pense que Le Corbusier, il a été précurseur dans ça parce qu'il a vendu son idée de l'architecture et il a réussi à genre, canaliser tout un mouvement, même s'il est assez diversifié. Quand tu regardes Adolf Loos ou Mies van der Rohe ou Le Corbusier, ils ont tous des architectures qui sont super différentes.
Oui, ils vendaient l'idée du moderne.
Mais ils vendaient l'idée du moderne et du nouveau.
C'est le monde de demain. C'est fini les vieilleries, le 19e siècle. L'architecture des empires, l'architecture, voilà, du...
Ouais.
C'est pas du colonialisme, mais genre, voilà, l'architecture qui est rattachée à ça. Du coup, ils vendaient cette idée-là en mode, on va vers le futur, vous voulez rentrer dans la modernité, nous, on a l'architecture du monde de demain.
Ouais, avec, nous, c'est les nouvelles technologies, nous, on vous offre un confort qui est accessible à tous.
Et pour ça, c'est trop fort.
Ouais.
Parce que du coup, tu n'as pas besoin de te dire, est-ce que j'aime ou j'aime pas, tu dis, ça, c'est moderne, ça, c'est le truc, j'ai envie d'en être.
Et surtout, même, je trouve que c'est tellement fort et versatile qu'on peut le réinterpréter aujourd'hui et avoir un résultat totalement différent. Mmh. C'est-à-dire que, OK, on a les 5 éléments d'architecture, on a la fenêtre en bandeau, les pilotis, le plan libre, la toiture terrasse, ces trucs comme ça. Ben, on va pas tous faire la Villa Savoie. On va forcément... Enfin, je trouve que c'est comme si on nous avait donné... C'est comme si on avait un jeu vidéo avec des règles et en fait, on peut jouer avec et produire ce qu'on veut. Mmh. Et c'est là qu'on se dit, bon, bah, pourquoi finalement le résultat déplaît autant?
Bah, je pense que ça manque d'esthétique. Après, c'est mon avis, c'est trop pauvre. Genre dans le sens où quoi, c'est hyper riche, hyper fonctionnel. Il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants. Mais est-ce que tu préfères vivre dans un appartement type haussmannien, sur un boulevard parisien, ou dans la cité radieuse?
Non, clairement dans un appart haussmannien.
Je pense que la plupart des gens répondront dans un appartement haussmannien. Parce que tu as le côté, tu vis déjà l'environnement. Il y a aussi ça, il y a l'environnement Montel, le Cité Radio. Je crois que c'est vers...
C'est à Marseille, il me semble, non?
Ouais, je veux pas dire de bêtises. Mais genre, l'environnement, t'es pas, je crois qu'elle est un peu excentrée par rapport au centre.
Il me semble que c'est... Enfin, moi, je l'ai jamais visité, mais il me semble que ça reste un objet qui est là. Mm-hmm. Enfin, il est pas vraiment entouré d'un contexte, j'ai l'impression.
C'est ça, et du coup... Bon, ça fausse aussi la réponse, mais une partant du principe qu'elle est dans un centre-ville tel un appartement haussmannien, par exemple, je préférerais toujours l'appartement haussmannien. Mais je pense qu'il y aurait plus de gens qui prendraient l'autre, parce que quoi, je pense que ça changerait un tout petit peu, parce que du coup, elle serait dans un environnement où il y a tout, mais bref.
Non, mais exactement. Et en vrai, on se demande qu'est-ce qu'on a perdu, parce qu'effectivement, il y avait toute cette guerre sur l'ornementation, et comme quoi l'ornementation, c'est une perte d'argent. Et effectivement, aujourd'hui, par exemple, quand on construit un logement social, on ne peut pas vraiment se permettre d'appeler un artiste pour venir orner la façade. Mm-hmm. Mais enfin, là, c'est un peu le sujet de ma prochaine vidéo. Enfin, je suis en train de voir quels sont les leviers psychologiques qui agissent sur nous. Enfin, les leviers que produit l'architecture et qui peuvent agir sur nous. Mmh. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on trouve qu'une architecture est belle ou plaisante ou ce genre de choses? Et des articles que j'avais lus, il y avait juste un mot qui m'a particulièrement fait réfléchir. C'est la notion de texture. Et en fait, quand tu regardes les bâtiments modernes, tu te rends compte qu'il n'y a pas de texture. Tout est lisse. Et alors que quand tu vois un bâtiment, si on prend le bâtiment haussmannien lambda, bah, il y a un jeu de textures et c'est des textures différentes.
Après, c'est le matériau aussi. La pierre, c'est un matériau noble.
Ouais.
Tu prends n'importe quelle civilisation, ils vont construire en pierre et du coup, ça, c'est le truc qui
perdure
plus dans le temps aussi.
Mais genre, au-delà de la pierre, ce que je veux dire, c'est que tu as 3 textures différentes. Mmh. Tu as la texture de la pierre en elle-même, qui est effectivement un matériau noble, super beau. Après, tu as la texture ornée de la pierre. Donc, je sais pas, soit c'est les jeux de colonnades. T'as un corinthien là, t'as un ionique ici. Et en fait, il y a une espèce de... C'est cette variation de texture, je pense qu'elle offre une espèce de complexité à la façade. Alors que, en fait, si tu analyses, les façades sont relativement simples, entre guillemets. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on trouve peut-être les façades un peu plus belles, hors le jeu de proportions.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est aussi la matière. Ouais, il y a de ça, mais il y a des bâtiments qui font du... Ce qu'on appelait mon prof du faux vieux.
Mais du coup, effectivement, je suis désolé, ça s'est coupé encore comme la dernière fois. Donc, il y a tout un pan de notre discussion qui s'est cassé, mais c'est pas grave, on va réenchaîner et parler sur d'autres sujets.
toute la politique suisse.
Toute la politique. Ah ouais, vous avez manqué tout un passage sur la politique suisse. Ça aurait été, en France, ça aurait été intéressant à mettre, en vrai. Ou pas.
Ou pas, ça dépend. Peut-être la plupart des gens, ça n'aurait pas intéressé.
Ah, je sais pas. Mais moi, je sais que ça m'aurait intéressé. Et c'est un peu comme ça que je pense mes vidéos. C'est si ça m'intéresse, ouais. Moi, je le mets. Si ça m'intéresse pas, bon, c'est peut-être pas forcément la peine. Mais ouais, on parlait, enfin, juste avant de remettre la caméra, on parlait de. Bah, de pourquoi on s'était lancé sur la création de contenu tous les deux.
Ouais, c'est juste moi au début je fais par rapport à la photographie.
Ouais, justement.
C'est ça, genre c'est vraiment à la base, moi je faisais un peu de musique. Mm-hmm. Puis avec le temps, j'ai un peu perdu la fibre musicale. Mais par contre, je faisais beaucoup de photos avec mon téléphone et je me suis dit je vais m'acheter un appareil photo allez, je crois que ça vaut la peine et tout, je vais pas genre juste l'acheter puis il va prendre la poussière. Et je l'achète, et puis au bout de 4 mois, je dis, allez, vas-y, j'ouvre un compte Instagram que dédié à la photo, comme ça, je saoule pas mes potes avec mes photos tous les jours, blablabla. Et bah, du coup, le compte, il était mort pendant un an, je n'ai pas publié un seul truc. Et après, j'ai commencé à publier, je pense, pendant un an, un peu quotidiennement, genre 2-3 posts par semaine de photos et tout. Puis au bout d'un moment, il y avait cette envie d'aller un peu plus loin, de se dire, en mode, allez, maintenant, on essaie de faire... Parce que la photo, c'est très frustrant, parce que tout le monde fait de la photo sur Insta. Pas tout le monde, ça, j'entends, c'est
fait pour. Enfin, c'est fait pour, oui.
Mais en même temps, genre, t'es peu vu.
Ouais.
Mais du coup, t'as cette frustration. Et en même temps, aujourd'hui, c'est le format réel qui marche.
Ouais.
Donc, du coup, j'ai commencé à faire des réels photos, mais ça marchait pas des masses. Et après, je me suis dit, bon, en même temps, il y a ce côté de l'architecture, j'ai envie de. Bah, avec la photo, quasiment 80% de mes photos sont des photos de bâtiments. Il y a un peu de street photo, mais c'est principalement des photos de bâtiments. Et je me suis dit, ah, mais j'aimerais bien, moi, pas d'architecture, j'ai toujours fait du théâtre, des trucs comme ça, genre. Donc, ça ne me dérangeait pas de passer en face cam, quoi. Et du coup, je me dis, bon, allez, défi, avant la fin de 2023, on monte une vidéo.
OK.
Je monte la première vidéo, je passe une journée à vraiment une journée complète à la faire pour une vidéo d'une minute. Hein. Je la monte et je suis
avec toutes les galères de tu ne sais pas quelle fonction fait quoi, tu veux faire un truc simple, ça prend. Ouais.
Je pense qu'il y a de la facilité quand tu viens d'un truc de l'architecture où tu maîtrises des logiciels comme Archicad, AutoCAD. Donc, tu vois comment marche un logiciel.
Ouais.
Donc, c'est pas la même chose, mais t'as des automatismes, des trucs qui, en tout cas, moi, c'est venu assez vite, mais, en tout cas, là, pas la première fois. Et je monte la vidéo à des potes, et ils me disent, mec, c'est horrible. Moi, j'étais hyper content et tout, genre, j'ai un peu montré à ma copine, et vraiment, je leur montre, et j'ai un pote qui lui a fait des études de cinéma, et il me dit, mec, tes images, elles sont bien et tout, les photos que tu prends pour illustrer ton propos, c'est cool, mais, mec, le ton, mec,
ouais.
C'est chaud, quoi, genre, tu la retravailles. Et la vidéo, elle faisait 2 minutes, je l'ai retravaillée, elle passait à 1 minute, donc j'ai pas changé le texte.
Ouais.
Donc vraiment, c'était juste la
même. Ah oui, donc ça devait être un peu c'est les ça. Montages dans tous les sens.
Les montages où je parlais trop lentement, je cotais pas assez souvent, ouais, genre je laissais trop de blanc et tout, j'ai recoté la vidéo, je l'ai sortie. Et après, je me suis dit, bon, fais pas comme avec la musique, parce que pendant longtemps, je voulais faire de la musique. T'as des projets, tu dis, ah, je vais faire un morceau, puis tu le sors jamais, t'en fais un, tu le sors, puis t'es déçu, puis. Du coup, j'ai dit, là, tu vas progresser, mais en progressant, tu vas sortir les trucs. Donc, tu fais une vidéo, tu la sors. C'est pas, tu la gardes pour toi et tout. Tu la sors comme ça, au pire, t'as les retours, au pire, elle flop.
Tant pis. Ouais, tu t'en fous. Et puis, au pire, t'as un stade où personne va voir ta vidéo.
Tu t'en fiches, quoi. Genre, ouais. Au final, puis même si quelqu'un la voit, bah, au pire, il dit, c'est nul, toi. Genre, tu la connais pas, cette personne. Toi, genre,
ouais, et au pire, tu vois, au moment où tu réussis, tu te dis, il y a un storytelling qui est super fort parce que. Il y a ce côté de tu regardes les premières vidéos du gars, il n'était pas super fort comme aujourd'hui. Et là, tu vois une progression et tu es en mode ah, purée, c'est plaisir à voir.
C'est ça. Et je me suis dit, si tu fais ça pendant un an, je suis sûr qu'à la fin de l'année, tu n'auras pas les. Et là, du coup, bah, j'ai eu le début d'année où je n'ai pas pu en faire trop. Et là, ça fait quoi, un mois et demi, j'essaie d'en faire à peu près 2 par semaine. Et j'ai trouvé un peu le rythme maintenant, que ce soit les techniques de montage ou tu sais tout tourner d'un coup comme ça. C'est pas genre je fais une vidéo, je tourne une vidéo. Non, j'en écris 3, j'en tourne. Ouais, du coup, je les tourne 3, je les monte les 3 en même temps et comme ça maximise un peu le temps. Comme ça, je ne perds pas des heures après à tout ressortir de matos.
Ouais.
Et du coup, ça, c'est cool parce que du coup, je vois que ça commence un peu à prendre. Moi, ça me plaît et du coup, ça... Surtout, je vois ce que ça m'apporte personnellement. En fait, du coup, maintenant, je fais plus de recherches sur l'architecture, je me sens plus connecté.
Mais oui, de faux furieux. Enfin, ce genre de choses que tu te permettais pas de faire avant parce que tu voyais pas l'intérêt.
L'intérêt, là, tu dis, ah, mais je vais faire une vidéo derrière. Donc, quel sujet qui m'intéresse vraiment? Ah, ce sujet-là, il est trop bien et tout. Ça, ouais. C'est si. Et...
Tu commences à lire des articles, des bouquins que t'aurais pas forcément lu avant. Enfin, je trouve que tu deviens beaucoup plus acteur dans ton éducation, entre guillemets. Ouais. Enfin, à l'école, on te donne tout. Mm-hmm. Et là, c'est toi qui te donnes les clés pour les donner aux autres après.
Mais du coup, je pense qu'il y a des gens qui arrivent à s'intéresser à plein de trucs. Comme ça, moi, j'ai besoin d'avoir un peu un but derrière le truc. Du coup, je me dis, bon, bah, c'est super, je vais en faire une vidéo. Donc, je m'intéresse à des sujets. Puis je vois des fois, maintenant, bah, je me dis, bon, c'est trop compliqué. Ou ça, ça sera pour plus tard. Genre, j'aimerais bien faire du YouTube. Mais pour l'instant, j'étais plus à l'aise avec le format short.
Ouais.
Mais il y a des vidéos où, genre, par exemple, je me dis, ça, une minute à résumer ce sujet-là.
C'est, ouais.
Ça va être hyper fastidieux. Je vais devoir sauter 80% des éléments et j'ai pas envie. Mais c'est ça aussi, tu vois. Genre, tu te dis, par exemple, il y a des architectes, j'aimerais bien parler. Mais je me dis, je vais pas résumer. Tu peux résumer leur vie, peut-être je le ferai, mais en même temps, il y en a où j'ai envie d'aller plus loin. Par exemple, j'aime beaucoup le travail d'Oscar Niemeyer.
Mm-hmm.
Et je trouve le personnage fascinant, je trouve ce qu'il a fait fascinant et tout. Et je pourrais faire un Reels d'une minute où je vais vite en mode brésilien. Architecte courant moderne, paf, il a fait tac, 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 son gros projet, c'est Brasilia. Ce que je fais un peu des fois avec des petits shorts,
ouais,
où je mets le texte pour ceux qui veulent lire un peu la description.
Oui, en vrai, ça, j'apprécie beaucoup pour le coup. Ce côté de, t'as un truc très visuel en short, mm-hmm, et pour ceux qui sont vraiment intéressés d'avoir le choix de lire la description.
Ta description.
Ça, c'est top. Ça, en tout cas, ça, c'est un truc que je fais beaucoup. J'aime beaucoup ça.
C'est le but, c'est d'intéresser aussi. Moi, ça me fait faire du contenu là, pour couper court,
ouais,
à produire. Voilà, faut trouver des bonnes photos, après voilà, faut monter, mais ça me prend pas trop de temps. Mais en même temps, c'est la valeur ajoutée, elle est là, quoi. C'est pas genre juste j'ai fait une vidéo pour faire une vidéo.
Oui, c'est pas juste une vidéo de vibes où il n'y a pas de fond derrière, c'est parce que le fond, il est là pour ceux qui veulent le voir. Donc en fait, c'est le meilleur des deux mondes.
C'est ça, c'est ce qui permet d'être présent sur les plateformes le plus possible, quoi. Parce que genre faire une vidéo d'une minute, ça prend beaucoup de temps, quoi.
Ouais,
ça
paraît
con, mais genre ça prend du temps et tout.
Non, mais en vrai, c'est ça, c'est le truc, on se rend pas compte, j'ai l'impression, c'est que le temps pour produire une vidéo, enfin, je trouve que ça va plus vite avec le temps.
Ouais, oui.
Mais au tout début, mais ne serait-ce que faire 30 secondes. Mmh. Moi, tu sais, la première vidéo que j'ai postée sur YouTube, c'est une vidéo de 30 secondes. Ça m'a pris toute la journée à faire parce que je savais pas comment la sortir.
Ouais, bah ouais, c'est ça. Des petits trucs. Hein.
Ouais, et tu te dis, ah putain, mais je veux que la colo, elle soit bien, je veux que la lumière elle soit bien, je veux que machin. Ah, je vais mettre un petit effet de grain, comment on fait ? Et tu passes 3 heures à chercher sur... Ouais. Et puis exporter la vidéo. Ça, c'est le truc que tu vois pas en vrai.
Le son, moi, j'ai galéré trop au début avec le son.
Ah.
Comment avoir un bon son ? J'avais un micro. Je savais pas comment, quoi. Parce que je faisais du rap.
Ouais.
Et j'avais un micro quand je l'avais acheté pour le rap, justement, j'ai galéré, je pense... un jour et demi à vraiment capter comment enregistrer ma voix.
Ah oui, ouais.
On parle même pas d'après le mixage, tout ça, ça j'ai jamais
réussi.
Genre vraiment
juste enregistrer
ma voix clean. Mais non, c'est bon, je sais le faire. Mais genre, maintenant ça va, je pense, 2 minutes, tac, entrer son. Et au début, bah, c'est pas de ce monde-là, moi je suis pas. Ah, j'ai mis du temps.
Ah ouais, non, mais c'est le genre de truc que j'ai l'impression qu'on prend pour acquis. Et en fait, quand on les essaye vraiment, on se dit, pouh. Parce que là, j'ai une appréciation pour les créateur de contenu que j'avais peut-être pas forcément avant.
Ouais.
Enfin, je captais qu'il y avait du taf derrière,
oui,
mais je captais pas vraiment, genre, à quel point tu t'arraches les cheveux en voulant faire ce genre de choses.
Ah, depuis que je fais ça, je respecte beaucoup plus. Je sais pas que je respectais pas avant du tout. Hein.
Non, mais.
Du coup, je suis en mode, ah ouais, non, mais il y en a qui. Tu dis, non, ils méritent pas, même genre, prenons Lena Situation par exemple.
Ouais.
Genre, moi, c'est pas un contenu qui me parle, c'est un truc de vlog et tout. Mais genre, aujourd'hui, quand je regarde son vlog, putain, en fait, il y a trop de taf derrière. Et puis celle qui fait son montage, c'est pour ça que je dis ça.
Ouais, ouais, ouais.
Après, une fois qu'ils deviennent gros, ils délèguent. Mais je me dis, en fait, c'est.
Enfin, c'est-à-dire que. Ouais, elle doit gérer. Déjà, elle doit rendre ses vlogs intéressants. Elle doit. Ne serait-ce que ça.
Ah, c'est ça.
Parce qu'on peut tous vlogger, mais on peut pas tous avoir une vie intéressante.
Mais elle, c'est tout ce que je trouvais pertinent. Maintenant, aujourd'hui, elle est devenue qui elle est devenue. Mais genre, au début, elle faisait des blogs sur sa vie et c'était pas Lena Situation, celle qui va au Met Gala, tu vois.
Non, non, c'était bonjour, c'est Lena, c'est ma vie. Ouais.
Et je me dis, storytelling. Moi, j'ai pas le truc naturel où il y en a qui sont trop forts, quoi, qui sont con ce truc-là, ils vont allumer leur cam et qui vont réussir à parler comme ça d'un bout d'un trait.
Et d'avoir un storytelling naturel. Ouais.
Moi, je l'ai pas, j'ai besoin de tout scripter, mot pour mot. Genre, j'ai fait une blague, elle est scriptée à l'avance. Et c'est là où tu te dis au début, c'est pas facile parce que du coup, ta blague, elle passe pas parce que du coup, tu la cites comme un robot.
Ouais.
Et avec le temps,
tu commences
à être plus fluide.
Bah, c'est-à-dire que tu vois, là, t'as l'impression que je regarde vous, mais la caméra, quand tu la regardes dans l'objectif, c'est quand même super bizarre parce que tu te dis, je suis en train de parler à quoi, en fait.
Ouais.
Et c'est ça le.
C'est la troisième personne.
C'est la troisième personne. Mais en vrai, c'est quelque chose que je trouve qui, de vidéo en vidéo, mm-hmm, ça s'améliore.
Ouais.
Dire, au début, tu es un peu hésitante, tu sais pas si tu peux crier, tu sais pas si tu peux machin. Et au fur et à mesure que tu arrives à avoir la conscience de ton image, là, ça commence à être un peu plus pro, un peu plus intéressant.
C'est ça. Puis après, faut se dire que de toute manière, au début, ça sera nul. Quoi, il y en a qui arrivent et c'est tout de suite bien.
Ouais.
Mais je pense qu'ils sont ou entraînés ou ils sont juste bons.
Ouais.
Je sais plus qui parlait de ça l'autre jour sur Internet. J'avais vu un podcast qui disait en mode mais vas-y, lance-toi. Genre, on se compare des fois à justement aux gros youtubeurs, les Nastiation, les Squeezie et tout. Mais eux, ça fait déjà longtemps qu'ils sont là, ça fait longtemps qu'ils ont entraîné le truc. Et du coup, aujourd'hui, tu vois pas.
Ouais, tu vois pas leur gars qu'il y a derrière, le fait qu'ils ont des équipes maintenant, mm-hmm. qu'ils doivent gérer ça. Fin...
Et puis, ça fait longtemps qu'ils font ça et tout. Quoi.
Ouais.
Et je pense que c'est comme un muscle, ça s'entraîne. Quoi.
Ouais, je pense que c'est ça. Et puis, j'espère que c'est quelque chose qui se voit quand on s'améliore de jour en jour.
Ouais, mais je pense. En tout cas, moi, on me l'a déjà fait ressentir, que ce soit plus mes proches qui me disent, ah, mais j'ai vu tes vidéos, surtout ceux qui sont rien à voir avec l'architecture. J'ai un pote, il m'a dit, en plus c'était hier, là, je l'ai vu,
ouais.
parce qu'il habite sur Paris justement, c'est pour ça que je suis aussi venu sur Paris. Il m'a dit, ah, tes vidéos, mec, j'ai vu, ça commence un peu à marcher. Et que je pensais pas du tout, mec, t'as vu l'architecture, j'étais en mode, ça va faire un four.
Ça va faire un four, ouais.
Et tout. Mais parce qu'il est complètement.
Il est pas dans le monde, mais c'est justement pourquoi son avis, il est super intéressant.
Et puis c'est pour ça qu'on en parlait là en off, je crois, quand ça a coupé.
Ouais.
Mais moi, c'est pour ça que je le fais. Le but, c'est que j'ai pas envie de parler. Ouais, aussi, mais le but, c'est pas que pour les architectes. Le but, c'est pour
tout le monde. Pour tout le monde, en vrai.
Quand je regarde une vidéo de Nota Bene, je suis pas historien, pourtant j'aime bien parce que j'y vais apprendre un truc, tu vois.
Ouais.
Et je pense que c'est ça, genre, t'as ceux qui vont. T'as les trucs que toi, tu vas chercher, c'est genre, par exemple, les bouquins d'archi qui sont souvent pour les curieux, mais principalement pour ceux qui sont dans l'architecture, pour leur culture. Mais moi, ce que je veux, c'est intéresser la personne lambda. À l'architecture. C'est voilà.
Et tu fais passer un message en vrai. Mais en vrai, moi c'est pour ça que j'ai lancé YouTube aussi. C'est parce que, l'architecture, c'est quelque chose, je pense, tous les deux qui nous passionne, mm-hmm. et on a eu envie d'en faire notre vie. Après, on verra comment ça va évoluer. Mais on se rend compte que il y a tellement de nuances et il y a tellement de choses que monsieur tout le monde, et c'est normal, ne sait pas ou n'a pas le temps de savoir. Mm-hmm. Et je trouve que, enfin, en tout cas, mon objectif, c'était vraiment de, si on veut faire changer l'architecture, c'est pas aux architectes de pouvoir la changer. Je te rends compte que nous, en off, on fait on veut faire les plus beaux bâtiments du monde pour nous quand on n'a pas de budget, mm-hmm. ou des trucs comme ça. Et peut-être, genre, réussir à partager cette passion et la rendre accessible à tout le monde, c'est peut-être ce qui peut permettre, de faire évoluer les projets dans le bon sens.
Dans le bon sens. Et c'est... Regarde les autres disciplines artistiques. Genre, tu prends le cinéma.
Ouais.
Aujourd'hui, t'as combien de podcasts sur le cinéma ? Combien de mecs qui parlent de cinéma ? Pourtant, il y a la cinéphilie.
Ouais.
Moi, je veux qu'aujourd'hui, les gens en architecture, il y ait ça.
Il y a les cinéphiles de l'architecture.
C'est ça, de l'architecture. Par exemple, comme la mode, t'as plein de gens qui font des vidéos sur le dernier défilé et tout. Moi, je veux qu'il y ait des youtubeurs qui disent en mode, vous avez vu le dernier bâtiment de Big et tout, ah, j'étais un peu surpris, nanana.
Ouais.
Et que ça commente. Moi, c'est pas forcément mon but, mais genre, je veux qu'il y ait des
Non, mais une communauté de youtubeurs architectes ou de créateurs de contenu architectes, ça serait excellent. Ça, en vrai.
On le voit avec tous les autres métiers artistiques. Il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, qui veut s'en donner les moyens, tu vois.
C'est ça.
Et du coup, aujourd'hui, on a encore peu. Tu vois, sur les réseaux sociaux, je suis là, 2-3 autres comptes francophones qui parlent d'architecture. Et on a tous un peu notre patte, notre style différent, quoi, en tout cas par rapport au sujet qu'on aborde. Et je me dis, bien, on peut encore être beaucoup plus. Pour l'instant, on est peu.
On est peu. Et c'est-à-dire que tu as le marché américain où, effectivement, tu as le marché anglophone où tu as des pontes de l'architecture YouTube ou Instagram qui sont déjà là. Mais c'est vrai que pour le contenu francophone, il y a vraiment peu de personnes. Enfin, je sais pas combien de personnes cette vidéo atteindra, mais qui que vous soyez, si vous avez le projet de vous lancer et de parler d'architecture, enfin, faut le faire. C'est, je sais pas, moi je trouve ça, je trouve que tout le monde devrait réussir à porter sa voix.
Mm-hmm.
Enfin, après bon, il y a les trucs moraux, peut-être pas tout le monde, mais s'il y a une passion quelle qu'elle soit, c'est peut-être pas forcément l'architecture, ouais, c'est pas forcément machin.
Je pense c'est l'envie de transmettre aussi.
Ouais, l'envie de transmettre
ton truc. Genre, faut pas hésiter, quoi. Genre, faut se lancer. Genre, que ce soit dans la newsletter, que ce soit des gens qui sont pas à l'aise avec le côté vidéo, tu vois.
Ouais, aussi. Les newsletters, ça peut marcher.
Ou faire de la voix off. Moi, je vois, il y a des contenus que j'aime bien en histoire, là, sur Instagram. Et le gars, il fait que de la voix off. Et c'est trop bien, tu vois. Genre,
ah, ça marche très bien, ça explose en ce moment.
C'est ça. Et au final, le fait de se filmer, c'est vraiment pas obligatoire.
Quoi. Non, genre, non, non.
Après, la voix, ça demande du temps parce qu'il faut le montage dynamique, quoi.
Et enfin, il faut le montage. Non, mais en vrai, il faut un montage dynamique. Et aussi, il faut avoir une voix charismatique, entre guillemets. Il faut savoir la travailler.
Ouais.
Enfin, c'est tout un travail de doublage ou de trucs comme ça.
Mais ouais, non, non, c'est ouf. Et moi, je pense que la niche sur architecture va exploser. Genre, ça s'est vu par rapport sur les réseaux sociaux. Que ce soit, on parlait avant, je vais écorcher son prénom, mais Architecton.
Architecton.
Quoi, qui est un peu, pour moi, un des premiers youtubeurs français à faire vraiment de l'archi.
Que j'aimerais bien avoir dans le podcast, si jamais.
et on voit aujourd'hui qu'il y en a de plus en plus sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, c'est encore un peu plus... Il n'y a que lui, en tout cas, qui fait, en termes de flux, de une grosse audience.
Ouais.
Mais il a fait une vidéo pour Arte et tout. Donc, il y a de l'intérêt, on voit.
Il y a surtout Arte. Bah, ne serait-ce que l'exemple d'Arte. Mm-hmm. Je connais plein de personnes qui ne sont pas architectes et qui surkiffent se poser devant un documentaire d'Arte.
C'est pas mal, le truc d'architecture, en plus.
Et vraiment, leurs trucs sont intéressants. Après, je trouve que ça reste quand même très académique dans certains des documentaires qu'ils font. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans la patte YouTube, c'est que le côté académique, il est un peu moins mis en avant.
C'est ta propre DA, donc c'est pas tes choix.
Et c'est plus, il y a plus de proximité.
Ouais. Mais après, moi, ce que j'aime, parce que moi, c'est ce qui me plaît le plus avec les vidéos, c'est l'histoire de l'architecture. C'est pas tant, j'aime bien l'architecture en soi, mais c'est vraiment l'histoire de l'architecture, donc comprendre l'histoire des bâtiments, comprendre pourquoi. Genre, j'avais vu un bout, j'ai pas fini en plus, mais je connaissais déjà pas mal l'histoire, mais. Le Reichstag, par exemple, c'est pas tant le fait que ce soit un bâtiment néoclassique qui m'intéresse, c'est juste son histoire, par quoi il est passé, quel événement il a fait, que, genre avec le fait qu'il ait brûlé le montée du nazisme. Genre, je trouve l'histoire du bâtiment est folle.
Ouais.
Et du coup, c'est ça que je trouve passionnant. Et du coup, moi, c'est pour ça que je suis plus axé histoire-architecture, parce que genre, je suis un passionné d'histoire, je suis un passionné d'architecture. Du coup, mêler les deux, c'est pour moi...
C'est une évidence.
C'est une évidence, toi, genre... Je suis trop mauvais en mémoire, mais il y a une femme, sur les réseaux sociaux qui parle d'architecture. Et elle, pour le coup, elle parle vraiment d'architecture. Genre, elle va expliquer les termes, les choses, genre comment c'est une voûte, qu'est-ce qu'un chien assis, ce genre de choses et tout. Et c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça intéressant, mais c'est pas le contenu que moi que j'aurais fait. Bah, c'est pas ma fibre la DA que je veux. Moi, c'est expliquer genre l'histoire du bâtiment, genre New York, pourquoi New York. Et je voulais rebondir sur Arte. Parce qu'Arte, ils ont fait un documentaire, si vous n'avez pas vu, vous avez la chance de le voir, en trois parties, sur l'histoire de New York, Amsterdam et Londres. Je crois que je l'ai vu deux fois, les trois parties, deux fois l'entièreté du documentaire. Incroyable. En gros, c'est l'évolution de l'économie à travers l'architecture et l'histoire. Donc, tu pars vraiment d'Amsterdam avec les premières bourses. Du coup, comment la ville, après, elle a pu prospérer. Donc, se payer ses premières maisons de maître, ses premiers trucs comme ça. Comment après, ça a été Londres. Donc après Londres, t'as toute la partie du 19e siècle, donc comment elle avec les incendies, comment après elle s'est reconstruite, elle a amené le chemin de fer, puis après t'as New York, l'explosion, ce documentaire.
Ah, il doit être incroyable.
Il est pépite.
En vrai, on voit le moins parce que ça, c'est clairement un des trucs que j'adore voir.
Tu verras, ça c'est Popcorn le dimanche.
Ça vraiment, tu m'étonnes.
Il est sur YouTube, mais tu sais, Arte, moi je regarde principalement sur YouTube Arte. Tu sais, ils mettent et ils enlèvent les docus.
Oui.
Ils les mettent, puis après ils les enlèvent, puis ils les reprennent.
En vrai, je trouve qu'ils sont. Arte, ils sont grave. Enfin, ils sont super intelligents. Ils ont bien chopé le coche de YouTube, j'ai l'impression.
Ils sont smart sur les nouvelles sociaux et tout.
Ouais, c'est-à-dire que, ils mettent leurs documentaires en temps limité, mais s'il n'y a pas de restriction, il ne faut pas t'abonner à quel service pour les voir. Et ça, c'est magnifique. Enfin, je trouve que c'est un peu ça la force de YouTube, c'est vraiment démocratiser le savoir et la culture pour tout le monde.
De ouf, moi, le nombre de trucs que j'ai appris grâce à YouTube, je disais ça à un pote l'autre jour, je disais, putain, mais j'aurais été à l'époque de mon père, j'aurais été beaucoup moins cultivé parce que maintenant, avec le temps, je me suis mis à la lecture. Mais au début, je sais que la lecture et moi, c'était pas ça. Mais je me dis, grâce à YouTube, j'ai pu m'intéresser à un sujet. Là, demain, t'es en soirée, quelqu'un te parle d'un truc, tu vois, genre, typiquement, ce que tu viens de faire. Genre, envoie-le-moi.
Ouais.
Tu vois, genre là.
Ah oui, là, maintenant, t'as un truc direct.
Tu deviens pas un expert, mais t'arrives à avoir des connaissances sur plein de trucs et genre à être éveillé sur plein de choses.
Et c'est ça, même moi, tu vois, au début de mes études, j'étais nul. Mm-hmm. J'étais vraiment nul parce que. Enfin, c'est pas que j'étais nul, mais j'arrivais d'une société très différente de la société française. Mm-hmm. Enfin, j'ai vécu toute ma vie au Maroc et donc, forcément, j'ai des influences qui sont très orientales. Même si j'ai reçu une éducation française avec les lycées français à l'étranger, ben, t'es quand même dans un paysage qui est très, qui est très marqué par sa culture. Et en fait, quand je suis arrivé dans les études d'archi, ben, j'avais des références qui étaient considérées comme étant maniérées et qui n'étaient pas le propos, en tout cas de l'éducation que je recevais. Et franchement, sans YouTube, sans Internet, ben, j'aurais difficilement pu rebondir parce que je me prenais beaucoup de murs en première année. Il y avait des choses que je ne comprenais pas très bien. Et en fait, sans YouTube, sans avoir ces chaînes qui te vulgarisent, certains éléments d'architecture, ou bien juste ArchDaily, qui te permet en deux secondes de connaître et l'actualité architecturale, mais aussi où tu as des sites comme Divisare qui te permettent de plonger un peu plus, d'avoir accès à des documents auxquels tu n'aurais pas pu avant. Mmh. Je veux dire, sans ça, je pense que je n'aurais même pas pu compléter mes études d'archi.
C'est ça, c'est ouf. Mais moi, je trouve que c'est une richesse. Genre, des fois, il y a un peu le discours de « Ouais, l'époque, elle est terne, elle est un peu… » Il y a des trucs, je comprends pourquoi on dit ça.
Ouais.
Mais moi, je suis trop content de vivre dans cette époque pour ça, pour Internet, pour tout,
mais
tout ce qu'on peut apprendre. Rien que le fait qu'on soit là à discuter des architectures,
on se serait jamais rencontré comme ça. Hein.
Parce que j'ai mis une vidéo, tu as vu le truc, tu as dit « Eh, viens !» Moi, je dis « Ah, trop chaud, on va parler d'architecture, ça va être sympa et tout.
Ouais. »
Là, après, bah, tu peux le faire avec tes potes de classe, d'école. Tu vois.
Oui, mais regarde, par exemple, moi, je viens du Maroc, je suis en France pour un temps limité.
Ouais.
Toi, tu es en Suisse. Ouais. Enfin, il y aurait vraiment eu zéro chance qu'on se rencontre avant. Tu vois. Une rencontre comme ça, ça n'aurait pas été possible.
Carrément, c'est sûr. Mais ouais. Oh, ouais, c'est fou, je trouve.
Non, mais écoute, ça c'est... Enfin, je veux plus d'optimisme, en fait. C'est marrant d'être cynique, ok, ça peut te rendre un peu intelligent ou je sais pas quoi, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'être dans l'espoir, pas forcément la naïveté, c'est ça qui est un peu compliqué à faire, mais de se dire qu'on a un futur qui est quand même hyper intéressant et on peut faire des choses.
De toute manière, si tu dis que tout part en couille, tu vas pas aller de l'avant, quoi.
Ouais.
Donc du coup, c'est... Moi, on parlait avant avec où je te disais que genre au début de mes études, j'aurais été un vieux gars aigri par rapport à l'architecture. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être ça. Alors, je me dis, j'ai pas envie d'être un énième mec qui dit c'était mieux parce que regardez, on avait construit des bâtiments en Osmania, on avait construit telle et telle chose. Aujourd'hui, on sait plus construire. Que ce soit ça, là, on parle d'architecture, mais c'est transmis aussi dans d'autres choses.
Dans d'autres choses, ouais. Mais ne serait-ce que la mode, par exemple, qui pourrait dire. Enfin, après, la mode, je trouve qu'elle a bien su se réinventer.
Ouais. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, je parle que de la mode que je connais. Je reprendrai après. De la mode masculine, je trouve qu'on fait plus d'efforts qu'avant quand même. Enfin, pas qu'avant.
Non, mais.
Dans les années 2000 et tout, même.
Les années 2000, c'était spécial. Je pense
c'était spécial.
Là, je pensais pas faire cette comparaison. Mais si tu veux, j'ai l'impression qu'architecturalement parlant, on est passé par la période années 2000 de la mode.
Ok, ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Okay, où tout était un peu moche, un peu bizarre, un peu funky, mais après, genre vers 2010, la mode a trouvé vraiment sa voie.
Mais là, ça revient, la tendance 2000. Hein.
Ouais, la tendance de... Je sais que moi, je suis très nostalgique de cette époque-là.
Mais parce que c'est normal, c'est notre génération qui a grandi. Maintenant, on est en train de regarder comme avant, c'était celle des années 90, des années 80. Maintenant, c'est... je dis années 90, si jamais...
Non, mais t'inquiète, il n'y a aucun souci.
mais ouais, là, je vois la mode des années 2000, ça revient et tout. Mais... Et du coup, bah, pour faire un parallèle, tu vois, genre, il y a des courants architecturaux qui ont évolué. Aujourd'hui, c'est quoi le courant phare de maintenant?
Il n'y en a pas.
Tu vois? C'est ça. Il y a des courants qui émergent, des constructivismes et tout, mais ce n'est pas des bâtiments du quotidien.
Non, ce n'est pas la force des mouvements qu'il y avait avant. Aujourd'hui, peut-être, on a des styles. Je dirais plus que des courants, on a des styles. C'est-à-dire, on peut se dire, ouais, on est déconstructiviste, mais je trouve que, en tout cas, comment on m'a enseigné l'architecture, je trouve que c'est vraiment dépendant du contexte et de la commande en question. Mmh. Et après aussi de l'architecte et de comment il réfléchit. C'est-à-dire que maintenant, tu n'as pas des courants, mais tu as des architectes plus qu'autre chose. Genre, tu as, je sais plus les gros noms, mais tu as Peter Zumthor, il fait une architecture de cette manière. Mmh. Tu as De Wando, il fait une architecture de cette manière. Bjerk Ingels, il fait une architecture de cette manière. Et Zaha Hadid, et genre, je pourrais énumérer plein de choses.
Zumthor, il est suisse.
Il est suisse. Ouais. En même temps, c'est un de mes architectes préférés. Hein, pour le
j'aime
coup.
Beaucoup aussi. J'aimerais bien aller faire ses bains là.
Les termes de valse.
Les termes de valse, là, j'aimerais bien aller.
Je crois que c'est peut-être un de mes bâtiments préférés en termes de texture et de trucs comme ça. Bon, je lance le tournage, mais je vais couper la plupart des trucs. Mais genre, si un mec comme ça, il arrive à faire des millions de vues sur un kebab. Et toi, tu as genre l'architecture qui peut être. Et tu te dis dans ta tête, c'est peut-être potentiellement beaucoup plus intéressant.
Tu peux
faire
tu peux tout vendre. Mais ça s'apprend, quoi. Genre, moi, je remarque ça. C'est le... Là, ce que je disais tout à l'heure en vidéo, je ne sais pas si ça avait été coupé ou pas, mais c'est comment Là, c'est ce que j'essaie d'entraîner justement dans mes dernières vidéos, c'est comment de moins passer de juste la fiche Wikipédia en mode à dire le bâtiment dans l'ordre chronologique, en mode voilà, il a été construit telle époque, par tel mec, pour telle raison.
Ouais.
Et après, il y a un événement dramatique. C'est plus en mode, il y a eu un événement dramatique.
Ouais.
Le bâtiment a été construit par. Nanana, et où il s'est passé
ouais,
ça.
Ouais, il faut rendre ça super intéressant.
Faut rendre ça dynamique et tout, parce que la personne, elle est là pour apprendre quelque chose, certes, mais pour être diverti dans le sens où tu prends l'exemple quand tu es en cours. T'as des bons profs et des mauvais profs. Alors, je parle pas de ceux qui ont pas envie d'être là, je parle juste de
non,
ceux
ouais.
qui...
Ben, leur manière de transmettre.
Leur manière de transmettre est pas intéressante. Moi, je me rappelle, il y avait des cours où j'avais hâte d'y aller parce que je savais que le prof allait rendre ça hyper intéressant. Bon, c'était les cours d'histoire la plupart du temps. Bon, c'est aussi la filiation, mais je peux prendre l'exemple avec les cours de français où j'étais moins attentif au français, alors que j'aime bien écrire de manière générale, mais puisque j'avais de la difficulté avec l'écriture, quoi, avec le dyslexique. Du coup, c'était des cours que j'appréhendais. Mais des fois, j'ai eu des profs où ils rendaient le cours tellement intéressant. Je me disais, c'est trop bien, on va faire de l'analyse de texte. Et en fait, la personne, comment elle a fait son cours, du coup, ça me donnait envie, alors qu'à la base, on fait de l'analyse de texte.
Ouais, non,
mais là, on va analyser un texte. En mode, mais ça va être hyper intéressant. On avait fait, j'ai en tête un poème de Baudelaire, on avait fait le sur l'Albatros.
Mm-hmm.
J'aurais juste pu dire, voilà, c'est un poème de Baudelaire.
Genre, ouais. Apprenez-le, ou je sais pas quoi.
Des trucs, apprenez-le par cœur, et puis recitez-le. Vous avez vu, il y a les métaphores, il y a les A, B, B, A, tu vois, juste comme ça. Et voilà, en fait, là, vous expliquez la philosophie du truc. On dit, voilà, l'albatros, c'est une. Je me rappelle plus de.
Ouais, mais il a rendu ça intéressant. Ça. Il a cherché à raconter une histoire derrière.
Voilà, il y a l'imaginaire, donc c'est l'albatros dans les airs, puis t'as le terrestre et les marins sur le bateau qui représentent. Et putain, c'est hyper complet.
Ah ouais, non,
il est trop fou. Stylé, en fait. Alors, quand je l'ai lu, ouais, c'est cool, mais voilà, il parle d'un oiseau. Et en fait, quand t'as l'analyse derrière, et quand c'est bien expliqué, tu te dis, putain, en fait, c'est trop intéressant, tu vois. Et je pense, avec les vidéos, c'est faire pareil, quoi.
Moi, je pense que c'est ça. En vrai, je pense qu'on va conclure à ce moment-là, parce que je sais qu'on a chacun des trucs à faire après. Mais j'ai adoré la discussion. Hein, honnêtement,
ouais, c'était cool.
C'est un super moment. La magie d'Internet, j'ai envie de dire.
Incroyable, ouais.
Si tu aurais un mot de la fin, c'est le moment si tu veux partager tes réseaux, tes projets, tes trucs comme ça.
Bah, de toute manière, je vais partager aussi le truc. C'est détail net sur Internet. Je parle d'histoire d'architecture et je fais de la photo, de la street photo. Et surtout, un petit mot de la fin, je dirais, soyez curieux.
Ouais, soyez curieux.
Soyez curieux, c'est un peu mon mot d'ordre. Du coup, ouais.
Bah, franchement, j'adore ça. Ouais. C'est quelque chose qui se perd quand on grandit et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie qu'on cultive après.
C'est sympa que dans l'architecture. Dans
non, dans tout, soyez curieux. Bah, franchement, top. Merci beaucoup d'être venu à Paris.
Bah, merci.
Et peut-être qu'on en refera un deuxième épisode, on ne sait pas.
C'est ça, c'était à Genève, pas c'était bonjour.
Bah, en vrai, ça sera peut-être l'occasion de passer à Genève.
C'est ça, c'est une belle ville.
Bah, magnifique. En tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui. Franchement,
merci.
C'était top.
Merci à toi.
C'était top. Bah, et je vous dis, abonnez-vous pour plus de podcasts et pour plus de vidéos sur l'architecture. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.
À plus.